BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
On vous retrouve pour BFM Patrimoine, 2 heures d'expertise pour gérer au mieux votre argent. 2 heures qui commencent par un survol de l'actualité économique avec Stéphanie Collo.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collo.
Et à la une, c'est la réindustrialisation, la mère de toutes les batailles, selon Emmanuel Macron, qui organise aujourd'hui à l'Élysée une grande journée autour de la reconquête industrielle. Le chef de l'État présentera sa stratégie pour accélérer les créations d'usines dans les prochaines années. Notez que BFM Business délocalise son antenne dans les jardins de l'Élysée pour l'occasion avec une émission spéciale de midi à 20h. En attendant, on retrouve Nathan Cocampo sur place. De nombreux industriels ont répondu présent à l'invitation du chef de l'État, Nathan.
Oui, à commencer par les plus gros industriels, ArcelorMittal, Aluminium, Dunkerque, Safran, Sanofi, des énergéticiens aussi, RTE et EDF, mais aussi des plus petites entreprises comme Neolith qui transforment des déchets en pierre. Voilà, une centaine d'acteurs du secteur réunis avec ministres et collectivités autour d'Emmanuel Macron et la présentation donc de ce cadre pour accélérer l'industrialisation du pays tout en diminuant l'empreinte carbone. Discours du président prévu donc à 16h sur notre antenne. Alors on s'attend d'abord à un bilan du chef de l'État avec un chiffre, celui de la création de 300 usines depuis son arrivée en 2017, mais ce, dans une industrie française en déclin. 2 millions d'emplois ont été détruits en 30 ans et aujourd'hui, si les annonces de création d'usines se multiplient, la période est toujours sujette à des pénuries de médicaments ou de semi-conducteurs, avec donc un vrai enjeu de souveraineté nationale sur des secteurs stratégiques. On s'attend donc aujourd'hui à des annonces pour pousser la robotique, l'hydrogène, l'aviation, le développement de médicaments français, des mesures pour faciliter les financements et l'implantation d'usines avec un allègement du cadre réglementaire. Emmanuel Macron veut aller 2 fois plus vite. Le président va d'ailleurs annoncer un projet de loi concernant l'industrie verte. Il sera présenté en Conseil des ministres le 17 mai.
Merci beaucoup Nathan Cocampo. On vous retrouve tout au long de la journée pour cette émission spéciale de midi à 20h sur BFM Business. Autant d'initiatives en faveur de la réindustrialisation qui devraient continuer à doper l'attractivité de la France. En 2022, le pays est resté champion d'Europe pour les investissements étrangers selon le baromètre EY avec 1259 projets accueillis, soit une progression de 3% par rapport à l'année précédente. Un bémol toutefois, l'enquête témoigne de la vigilance des groupes internationaux pour l'avenir. La France qui lance un fonds d'investissement dans les métaux critiques, ces matières premières cruciales pour la transition énergétique et sur lesquelles nous n'avons pas la main. Un fonds public-privé doté de 2 milliards d'euros sera géré par la société de capital investissement spécialisée Infravia. Infravia qui fera d'ailleurs partie de nos invités en fin d'après-midi autour de 17h après le discours d'Emmanuel Macron. Dans le reste de l'actualité en Chine, l'inflation est au plus bas depuis 2 ans. En avril, la hausse des prix progresse de 0,1% sur un an contre 0,7% un mois plus tôt. En Allemagne, les syndicats appellent à la grève dans les transports ferroviaires lundi et mardi prochain. Il s'agit du 3e mouvement depuis le mois de mars. Les cheminots veulent ainsi peser sur les négociations salariales dans un contexte de forte inflation. Dans l'actualité, entreprise BNP Paribas met à jour sa politique climatique. La banque annonce l'arrêt du financement de nouveaux projets gaziers, mais elle ne s'interdit pas en revanche de financer des entreprises développant de nouveaux champs tant que l'argent n'est pas directement affecté à ce type de projet. Au chapitre des résultats, Engie annonce un bond de 30% de son résultat d'exploitation hors nucléaire à 3,8 milliards d'euros au premier trimestre, et ce malgré la baisse des prix et des volumes de gaz distribués. Le chiffre d'affaires progresse de 14% par rapport à la même période l'année dernière à 30 milliards d'euros. À noter que les grèves ont coûté 60 millions d'euros au groupe. Et puis au Japon, SoftBank s'enfonce dans le rouge. Le géant japonais annonce une perte annuelle de plus de 6,5 milliards d'euros, plombée par le ralentissement du secteur de la tech dans lequel le groupe a massivement investi, Cédric.
Merci beaucoup Stéphanie. On se retrouve tout à l'heure à 11h pour suivre cette actualité économique. Et nous, c'est l'heure de filer à la bourse. Retrouvez Antoine Larigauderie.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Notre vigie boursière qui au quotidien scrute cette première heure de cotation, que se dit-on sur les tables, Antoine ?
Ben enfin du souffle, enfin un nouveau souffle pour le CAC 40 qui connaît une hausse quand même sensible, plus 0,95%. Et on accélère depuis qu'on a repassé le cap des 7400 points, 7430. On semble avoir sauté quelques obstacles techniques qui s'étaient formés jusque-là. On a senti que le CAC 40 avait beaucoup de mal à réagir hier à l'inflation américaine qui était quand même bien inférieure aux attentes et qui était plutôt un signal positif. D'ailleurs, même Wall Street a clôturé de manière extrêmement mitigée. Là, le sentiment est bien meilleur ce matin quand même. A mis du temps à infuser. A noter que l'Eurostox 50 signe une hausse de 0,7%, le DAX à Francfort plus 0,3%, donc Paris signe une belle surperformance, alors même que les marchés asiatiques ce matin aussi étaient un petit peu mitigés. Mais un meilleur sentiment, on pourra peut-être avoir confirmation justement de ce paysage un petit peu plus clair autour de l'inflation américaine cet après-midi, puisqu'on attend les prix à la production aussi pour le mois d'avril, l'inflation sortie d'usine, c'est un indicateur très très important, et en attendant on revient sur les valeurs sûres de la Bourse de Paris, le secteur du luxe, LVMH qui gagne 1,9%, leader des progressions à 888,80 €. On a Kering plus 1,39 à 549 €, L'Oréal plus 1,45 à 423,25 €. On a Alstom qui se rattrape après une séance un petit peu difficile hier. Le titre gagne 1,8% à 23,50 €. Et puis on a Renault aussi qui se porte bien, plus 1,57% à 33,55 €. À noter de fortes hausses aussi sur le SBF 120. On a Beneteau, plus 13,2% à 17,18 €. Solution 30 aussi qui gagne 9,5% à 3,14 €. Ou encore Valneva plus 4,17 € à 5,80 €. Les titres à la baisse du moment, Michelin avec moins 1,13 € à 28,84 €. C'est la plus forte baisse du CAC. Eurofins Scientifique, moins 0,8 € à 60,90 €. Unibail-Rodamco Westfield, moins 0,8 € à 45,43 €. Plus forte baisse du SBF 120, l'indice large, Eutelsat qui perd 3,6% à 6,12 €. Le CAC donc plus 0,95%, 7431 points. Et le dollar reprend des couleurs, l'euro tombe à 1,0928, Cédric.
Voilà le regard porté sur cette première heure de cotation, Antoine Larigauderi, merci. Le marché, on continue à s'y connecter et on explore la cote parisienne.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zépipo.
Sébastien Féjean est en ligne avec nous, bonjour Sébastien. Vous nous entendez Sébastien?
Oui.
Eh bien, nous aussi, allô, et tout va bien.
Parfait.
Merci d'être en ligne avec nous depuis des Midcap et pour nous parler de Jacquet Metal ce matin. C'est un titre qu'on a déjà évoqué ensemble. On peut peut-être rappeler juste le périmètre du groupe.
Oui, alors Jacquet Metal, c'est un distributeur indépendant d'aciers spéciaux. Donc, les aciers spéciaux, c'est une toute petite niche dans le monde de la production d'acier. C'est moins de 3% ou de la production globale. Donc on a trois types d'aciers principaux: les aciers inoxydables plats, les aciers inoxydables longs et les aciers mécaniques. Et c'est ce que fait Jacquet en tant que distributeur, c'est-à-dire qu'il n'a aucune activité en amont de production.
Voilà donc pour le portrait. Qu'est-ce qu'on peut dire justement du groupe? Il y a eu une publication et c'est intéressant de la disséquer.
Oui, alors en fait, nous, on s'attendait vraiment à avoir une forte baisse de l'activité au premier trimestre. Le groupe avait averti d'ailleurs que, compte tenu évidemment de l'évolution très forte des prix qu'il avait connu depuis ces deux dernières années, avec des hausses très importantes liées aux matières premières, forcément, la mécanique devait s'inverser. Et en fait, on a été assez surpris puisque sur le premier trimestre, on a eu en fait quasiment, avec une base de référence extrêmement élevée l'an dernier, un chiffre d'affaires qui était quasi changé, une petite baisse de 4,4%, avec toujours des prix qui continuent d'augmenter, mais des volumes qui baissent. Donc en gros, on a moins 11% de baisse en volume, mais plus 5% presque 6% de hausse en prix. Donc tout ça nous fait effectivement un chiffre d'affaires qui reste très élevé. Mais surtout, le plus important, c'est que on a quand même des résultats qui restent encore une fois extrêmement solides.
Mais du coup, on a envie de se projeter un petit peu forcément dans l'avenir, j'imagine, pour pas garder l'œil rivé sur le rétro. Qu'est-ce qu'il y a devant? Le news flow devrait rester favorable ou au contraire, il y a du doute?
Réviser significativement en hausse nos prévisions, puisque le consensus et nous-mêmes attendions un résultat opérationnel pour l'année un peu supérieur à 75 millions d'euros. C'est ce qui a été fait sur le premier trimestre, puisque le résultat opérationnel a atteint 68 millions d'euros. En parallèle, on a constaté que le groupe a très nettement réduit son endettement net, qui est autour de 160 millions d'euros contre 234 à la fin de l'année dernière, donc à la fin 2022. Il va distribuer 1 euro de dividende, mais évidemment, ce qu'on a expliqué en début d'intervention, c'est évidemment le fait que les prix et les volumes allaient fortement baisser. Mais pour l'instant, ça fait plusieurs trimestres qu'ils nous le disent, et on n'a pas eu vraiment d'éléments tangibles. Bon, on va dire que sur le second trimestre, forcément, on aura un effet qui sera beaucoup moins positif, mais la valorisation prend en compte la fin du monde, quoi. Donc, j'ai envie de vous dire, donc, c'est compliqué de justifier, voilà.
Donc, du coup, finalement, le titre a ou conserve un potentiel. Vous êtes favorable?
Nous, on reste fondamentalement favorable, puisque la valorisation, encore une fois, prend quelque chose. Enfin, actuellement, on a des fonds propres qui sont de l'ordre de 800 millions d'euros, pour une capitalisation boursière qui est l'ordre de 400 millions d'euros, 420. Donc on a vraiment une décote qui est très importante. Et je vous rappelle quand même que les fonds propres de Jacquet sont constitués essentiellement d'acier. Donc c'est-à-dire que c'est une valeur qui est vraiment très 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 décotée, et que même en intégrant un scénario forcément de baisse de l'activité cette année, nous on pense qu'à moyen terme, ça reste un très bon cheval.
On est à 17,74 ce matin. On peut s'autoriser à viser combien?
Nous, on pense que ça vaudrait au moins une fois les stocks d'acier, c'est-à-dire de l'ordre de 25-26 euros par titre.
Eh bien, voilà quelques éclairages proposés ce matin sur ce titre Jacquet Métal. Éclairage signé Sébastien Féjean depuis ID Midcap. Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir été au rendez-vous ce matin. Le marché, lui, pour le moment, eh bien, continue à progresser. On est de retour au-dessus des 7400 points. On gagne 0,9%, 7429 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Sébastien Druc qui nous attend chez CPRAM. Bonjour, Bastien.
Bonjour.
Merci de votre présence ce matin pour commenter l'actualité et notamment cette inflation américaine tombée hier. Inflation tenace, dira-t-on, collante, disent certains. Et les marchés, eux, ont semblé s'en accommoder. Et vous, est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous êtes résigné? Quelle lecture faites-vous de ces derniers chiffres?
Alors, on a une inflation totale qui est sortie très légèrement en dessous des attentes pour le mois d'avril, à 4,9% pour l'inflation totale, donc, contre 5% en mars et 5% attendu. Donc, c'est quand même le plus bas niveau depuis 2 ans. Le point négatif de ce rapport, c'est une inflation sous-jacente qui a plus de mal à baisser. On est à 5,5% pour le mois d'avril, et on se traîne sur ces niveaux depuis 3 ou 4 mois. Alors, malgré tout, nous, on est confiants sur la dynamique de désinflation. D'abord, sur l'inflation totale, il reste encore pas mal de désinflation à venir du côté de l'alimentation. On a pu observer sur l'année qui vient d'écouler un ralentissement des prix des engrais, et ça va progressivement se transmettre au prix de l'alimentation, et donc il y aura de la désinflation qui viendra des prix de l'alimentation. Ensuite, il y a aussi de la désinflation qui va venir de l'énergie. Aux États-Unis, une très forte baisse des prix du gaz naturel. On est revenu vers les niveaux de la fin de l'année 2020. Et ça va progressivement se transmettre au CPI électricité, au CPI gaz naturel également. Ensuite, il y a l'inflation sous-jacente, donc, comme je l'ai dit, qui se traîne sur des niveaux élevés depuis 3-4 mois. Il faut rappeler qu'il y a quand même 2/3 de ces 5,5% d'inflation sous-jacente qui proviennent du CPI logement hors énergie, donc, grosso modo, c'est les loyers, quoi. Et là, la contribution du logement à l'inflation sous-jacente, elle a baissé pour le 2e mois consécutif, alors que ça n'était pas arrivé depuis 2 ans. Et ça, c'est vraiment de bon augure pour la suite, notamment parce que la variation mensuelle du CPI et logement hors énergie, elle ralentit fortement. Et si on continuait comme ça, à ce rythme-là, sur les prochains mois, ça ferait perdre plus d'un point de pourcentage à l'inflation sous-jacente d'ici la fin de l'année. Et on pourrait même imaginer que ça aille plus vite si le CPI et loyer suivaient les loyers qui sont mesurés par les sociétés privées, hein, telles que S&P notamment. Donc voilà, je dirais que c'est un rapport sur le CPI qui est vraiment rassurant, pas tant sur les chiffres d'avril en eux-mêmes que sur la dynamique de désinflation sur les mois à venir.
Voilà donc pour ces questions de prix. Mais il n'y a pas que ça en ce moment aux États-Unis. Il y a aussi la problématique du plafond de la dette. Et pour l'heure, il n'y a pas d'avancée entre Joe Biden et l'opposition. Les négociations se poursuivent et sans accord, il pourrait y avoir un défaut dès le 1er juin. Vous le redoutez d'abord ?
Alors c'est vraiment un sujet tarte à la crème. Des affrontements compliqués sur le plafond de la dette, il y en a déjà eu en 2011, en 2013. Il y a toujours une résolution à la fin avec un relèvement du plafond de la dette. La grande difficulté de cette année, c'est que il y a non seulement des désaccords entre républicains et démocrates, mais ça, on a l'habitude. Mm-hmm. Mais c'est surtout dans le camp républicain qu'on a, le camp républicain a beaucoup de mal à afficher un front uni. Ils n'ont que 4 voix d'avance à la Chambre des représentants. Il y a des visions quand même très opposées au sein même du parti républicain. C'est pour ça que les négociations vont être très compliquées, parce qu'il n'y a pas seulement 2 camps, il y en a au moins 3, voire il y a encore plus de camps que ça pour cette négociation sur le relèvement du plafond de la dette. Ensuite, sur la date à partir de laquelle les États-Unis pourraient théoriquement se retrouver en défaut de paiement, la secrétaire du Trésor, Janet Yellen, elle avait évoqué le 1er juin, et je pense pas qu'elle bluffe, hein, parce qu'on a un niveau de cash du Trésor américain qui est très bas, à peu près 185 milliards de dollars, qui permet de tenir vraisemblablement aux alentours d'un mois, peut-être même un peu moins d'un mois, ce qui fait que cette date évoquée par Janet Yellen, elle est tout à fait crédible pour un éventuel défaut de paiement des États-Unis. Donc on a vraiment de quoi se faire peur sur le mois qui arrive sur ce sujet du relèvement du plafond de la dette.
D'autant que vous avez évoqué l'aspect politique et les déclarations de Donald Trump cette nuit qui appellent quasiment à un défaut. On sent que ça amuse pas beaucoup de Janet Yellen, effectivement.
Oui, il faut quand même souligner que même si la probabilité qu'il y ait un défaut de paiement des États-Unis est relativement faible, parce que tout le monde a intérêt à ce que ça n'arrive pas, si jamais ça arrivait, les conséquences sur l'économie pourraient être vraiment très négatives. Donc voilà, c'est un défaut de paiement, c'est une probabilité qui est faible. Mais si jamais ça arrivait, les conséquences pourraient être vraiment extrêmement négatives. Et ça, il ne faut pas l'oublier.
Merci beaucoup Bastien. Bastien Dru et CPRAM qui nous accompagnaient ce matin. Très bonne journée. Le marché parisien reste pour le moment en hausse. 0,9%, 7429 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la vie IMO.
La Vie Immo qui accueille ce matin Ludovic de Jouvencourt. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, cofondateur de Prélo. On va aller se promener, mais avant, peut-être, rappelons un peu qui est Prélo.
Donc Prélo, on est une start-up de l'immobilier qui démocratise l'accès à la propriété d'une résidence secondaire. Et donc on s'est fait connaître avec notre modèle d'achat à plusieurs. On permet à jusqu'à 8 personnes d'acheter un même bien que nous, on va gérer, entretenir, louer. Et on a récemment lancé une offre d'accompagnement d'une personne qui veut acheter seule. Et ça passe également par le fait de trouver le bien, le rénover et le gérer si cette personne veut accéder à notre conciergerie quand elle n'est pas là.
Voilà donc le portrait en quelques mots. Et je le disais, on va donc se promener. Vous nous emmenez ce matin en bord de mer, mais pour des raisons qui ne sont pas forcément sympathiques.
Tout à fait. Depuis le début, chez Prélo, en fait, on étudie quelles sont les causes qui vont avoir un effet sur le patrimoine de nos clients et de nos futurs clients. Et donc, ce sont des effets financiers, mais aussi, là, on va parler d'effets météorologiques. Et on s'est rendu compte, dans notre étude, pour accompagner nos clients sur dans quelle zone ils vont acheter leur résidence secondaire, qu'en fait, il y a énormément de côtes qui sont menacées par l'érosion naturelle, et qu'en fait, ça concerne 1,3 million de résidences secondaires aujourd'hui. C'est énorme.
Donc c'est météorologique, c'est climatique.
Tout à fait.
Mais ça aura un impact forcément sur la valeur de ces logements. Le phénomène est... Enfin, on en entend parler. On a eu quelques illustrations. Notamment, je pense à cet immeuble qui a dû être détruit dans le sud-ouest. Mais c'est si important pour qu'on s'y intéresse sérieusement aujourd'hui quand on parle d'objectifs patrimoniaux ?
Très important. En fait, il faut savoir quand même que l'érosion des côtes, ce n'est pas un phénomène nouveau. Il s'accélère avec la montée des eaux. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une très forte corrélation entre les zones très plébiscitées pour acheter sa résidence secondaire. Et donc, en fait, ça tire les prix vers le haut et l'exposition à l'érosion des côtes. Je vous donne un exemple. On se rend compte que la pointe du Cap Ferret recule de 5 mètres par an en moyenne. C'est un chiffre édifiant.
5 mètres, c'est déjà pas mal, effectivement. Ah, c'est beaucoup, hein. Alors, effectivement, le Cap Ferret, c'est une zone très particulière. Est-ce que, enfin, vous avez un... Généralement, dans cette chronique IMO, on parle souvent de top. Ouais. Est-ce qu'il y a, je sais pas, les 10 zones ou les 10 villes ou les 10 régions les plus frappées, les plus à risque, enfin voilà, que vous auriez identifiées?
On a identifié des zones qui sont les plus exposées pour les résidences secondaires. Donc ça prend en compte les chiffres de l'INSEE sur le nombre de résidences secondaires sur la zone. Et la première zone la plus exposée, c'est la Baule, avec plus de 13 000 résidences secondaires qui sont exposées. Ensuite, c'est Biarritz, Arcachon. Et ensuite, on va avoir Fleury, dans l'Aude, Cap-Ferret, Lacanau. Et ensuite, on retrouve des communes qui ont moins de 6 500 résidences secondaires exposées, c'est-à-dire Pornichet, Cap-Breton, Saint-Jean-de-Luz ou La Tranche-sur-Mer.
Bon. Et qu'est-ce qu'on se dit concrètement là-dessus? On se dit donc qu'il ne faut pas aller y acheter, il faut acheter à plus de 5 mètres. Enfin voilà. Comme on doit prendre cette information quand on se dit tiens, je suis tenté par une résidence secondaire, voilà. Comment on...
Alors en fait, on se rend compte que.
C'est des zones rouges, c'est des zones. Comment on doit les.
Alors en fait, déjà, on constate que 864 communes sont exposés à l'érosion côtière. Et déjà, aujourd'hui, 126 ont modifié les règles d'urbanisme pour limiter les nouvelles constructions. Par contre, quand on étudie auprès de nos clients ou de nos futurs clients quels sont leurs projets et leurs motivations pour réaliser leur achat de résidence secondaire, ils vont nous parler de communes et de villes qui sont très à la mode parce qu'ils ont eu vent de ces communes dans la presse ou à la télé ou dans les films, sans pour autant avoir d'attache particulière dans cette zone. L'enjeu pour nous, c'est de leur exposer tous les éléments qui vont avoir un impact sur la valorisation de leur patrimoine et leur amener à faire les bons arbitrages pour se dire est-ce qu'on veut quand même investir dans cette commune, au risque en plus de payer un prix du mètre carré extrêmement cher, ou est-ce qu'on préfère aller cibler une commune qui est moins exposée et qui potentiellement répond aux mêmes critères de qualité de vie et qui a potentiellement également moins subi l'inflation du prix de l'immobilier.
Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous, à chaque fois que vous identifiez une de ces communes, vous essayez de regarder aux alentours, j'imagine, vous ne proposez pas non plus de traverser la France, pour vous dire, ben voilà, vous vouliez la mer, elle y est, vous vouliez le charme, ça y est, enfin, voilà, vous trouvez le succès d'année, quoi.
Alors, c'est une des étapes du processus. Et comme je le disais, la première, c'est vraiment identifier tous les points qui vont être importants pour nos clients, la motivation. Typiquement, on a des clients qui veulent absolument acheter à Biarritz ou absolument acheter à La Baule. Dans ces cas-là, on va quand même faire le projet dans la commune, mais on va les accompagner à le faire dans des zones qui sont moins exposées de la commune, en leur dressant le tableau de ce qui les attend sur place pour les 30, 50, 100 années qui viennent. Parce que, faut le rappeler, quand on achète une résidence secondaire, c'est un produit qu'on achète pour soi, évidemment, mais aussi pour ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants.
Et on arrive, entre guillemets, à chaque fois, parce que bon, on va prendre l'exemple sans doute peut-être de La Baule ou de Biarritz, il y a une typologie de maisons qui ont souvent beaucoup de charme et donc beaucoup d'attrait et des prix conséquents,
ouais,
qu'on ne va pas retrouver quelques dizaines, quelques centaines, quelques kilomètres plus loin, plus à gauche, plus à droite ou plus en retrait de la côte.
C'est une question de choix.
Ouais, c'est ça.
En fait, on se rend compte que plus on est près du bord de mer, plus on est près de la côte, plus le prix du mètre carré va s'envoler. Alors que paradoxalement, il y a cette exposition à une disparition totale de ce qu'on est sur le point d'investir. Vous prenez l'exemple de Biarritz qui a subi un essor incroyable en termes de résidences secondaires et de nouveaux propriétaires en investissement locatif également. Le prix du mètre carré va toucher les 10 000 euros et en bord de mer, c'est bien plus haut que ça. On trouve ça un peu surprenant qu'une personne soit prête à prendre le risque alors qu'il y a déjà eu des cas qui ont montré que des propriétés ont dû être détruites en raison de l'érosion de la côte. Que ces gens soient prêts à acheter près de 10 000, 12 000 euros du mètre carré alors que demain, ça va peut-être disparaître.
Ça peut étonner nos auditeurs, nos téléspectateurs ce matin, parce que tout le monde ou beaucoup de gens ont peut-être déjà réalisé ou eu des connaissances qui réalisaient une acquisition. Et on sait que dans l'énorme pavé de dossiers, de documents qu'on reçoit, il y a tout un tas de diagnostics miniers, de risques industriels. Tout ça ne figure pas aujourd'hui dans ces documents où les gens ne veulent pas le regarder.
Alors, d'une certaine façon, il faut lire entre les lignes. Il y a dans les documents qu'on signe quand on achète une propriété, évidemment, le risque d'exposition aux inondations. il y a quand même une corrélation entre les deux. Hein. Et donc, il faut quand même bien être attentif. Mais effectivement, l'un des rôles de Prélo, c'est d'accompagner l'acheteur. Structurellement, le marché de l'immobilier, en France et dans beaucoup d'autres pays, est orienté vers le vendeur. C'est le vendeur qui a la clé. L'agent immobilier va chercher le mandat auprès du vendeur. Et jusqu'à présent, il y avait peu d'acteurs qui accompagnaient et défendaient les intérêts de l'acheteur. C'est notre rôle. C'est pour ça qu'on le fait. Il y a évidemment le notaire dans le processus. Il y a un agent immobilier. Mais c'est important d'avoir un tiers de confiance qui va collecter l'intégralité des éléments structurants dans le choix qu'on s'apprête à faire.
Juste, quelle est la réaction de vos clients quand vous leur dites... À mon avis, ça va pas être possible. Alors, parce que eux, c'est leur rêve. Ils ont souvent mobilisé le financement nécessaire. C'est le projet d'une vie. Puis vous, leur brisez leur rêve, finalement.
Pas du tout.
Non. On n'aime jamais le messager.
Non, disons plutôt qu'on fait de leur rêve une réalité.
D'accord.
Donc
ils le prennent bien.
Ils le prennent bien. Ils sont plutôt rassurés. Ils nous disent effectivement, on a la sensation d'être accompagnés dans notre choix. On a la sensation de faire un bon achat là où on était un peu dans le brouillard avant que vous arriviez dans le processus de recherche de notre propriété.
Merci beaucoup Ludovic d'être passé nous voir. Ludovic de Jouvencourt, donc cofondateur de Prélo, qui nous accompagnait ce matin sur ce bord de mer. Parfois à risque, patrimonialement parlant.
Merci à vous.
À très bientôt.
À bientôt.
Dans un instant, on va prendre le pouls technique des marchés. Ce sont nos deux traders. Ils sont en train d'affûter leurs écrans. Le CAC 40, lui, grignote 0,8%, 7422 points.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Deux traders sont à votre service et le rendez-vous est fixé jour après jour à 10h30 pour prendre le pouls graphique technique de la séance du jour. On retrouve donc Jean-Louis Cussac, que l'on aperçoit en duplex depuis Perceval Finance Conseil. Bonjour Jean-Louis. Et en ligne avec nous depuis IG, Alexandre Baradez. Bonjour Alexandre. Merci d'être au rendez-vous tous les deux. Alexandre, comment voir ce marché qui rebondit malgré, j'ai envie de dire, l'inflation un peu collante aux États-Unis?
Oui, c'est effectivement la question que tout le monde se pose un peu aujourd'hui. Pas tellement pourquoi le CAC rebondit, mais plutôt qu'est-ce qu'on fait de cette zone de 7400 points. Il faut bien rappeler que la zone de 7400, c'est pas juste un chiffre, c'est une zone qui a été très testée par le marché. Déjà début 2022, avant que les marchés ne s'affaissent complètement pour les sujets que l'on connaît, puis ensuite dans le rallye du CAC cette année par exemple, en février, c'était ce qui a plafonné le rallye du CAC en février, puis qui a encore plafonné le rebond du CAC en mars. Ensuite on a cassé ce niveau en avril pour aller chercher la zone quasiment des 7006, et depuis quelques jours on revient faire des incursions sous les 7004. Donc la grosse question c'est est-ce que 7400 ou cette zone des 7400 points, c'est ce qu'on appelle une zone de pullback. C'est-à-dire, en gros, on casse à la hausse, puis on vient s'appuyer dessus ensuite, avant de repartir à nouveau vers les 7006, puis les 8000 derrière. Ou est-ce que nous sommes en train d'essayer, est-ce que le marché considère que le 7600 points est une excursion un peu trop tôt, un peu trop anticipée par rapport aux fondamentaux, par rapport à, vous l'avez dit, à l'inflation, par rapport à l'action des banques centrales encore, et donc avec la nécessité de repasser temporairement sous ce niveau. Et c'est ça qui se joue en fait depuis quelques jours. Et on voit ces allers-retours autour de 7004. C'est une zone pivot depuis maintenant une bonne grosse semaine. Et moi, mon sentiment, c'est que la somme de tout ce qu'on a vu ces derniers jours, si vous voulez, à la fois hier par rapport à l'inflation américaine, on voit encore ce matin, par exemple, une étude de la Banque Centrale Européenne qui montre que les anticipations d'inflation des consommateurs pour la zone euro ont sensiblement rebondi. On voit que les taux américains, par exemple, restent toujours assez tendus sur la partie courte des taux parce qu'il y a cette question du risque lié au plafond de la dette, plus ces chiffres d'inflation qui maintiennent toujours les taux courts dans une zone relativement élevée. Des chiffres sur la Chine aussi, on a vu ce matin, et on peut en citer plein comme ça, mais je prends le dernier qu'on a sous la main, c'est les nouveaux prêts bancaires en Chine, par exemple, pour le mois d'avril. On a eu un chiffre qui était deux fois inférieur au consensus. On voit des prêts à production qui se replient désormais en annuel en Chine, et ce depuis déjà plusieurs mois. Donc, on peut dire, c'est une bonne chose, oui, qu'effectivement les prix en Chine se replient, etc. C'est bien pour faire baisser la pression sur l'inflation importée, ce genre de choses. Mais il y a une petite question quand même en toile de fond, qui est le rythme de la dynamique de reprise chinoise. C'est ça qu'on regarde depuis quelques temps. Il y a pas mal de stats sur les PMI ou autres qui interrogent sur cette vigueur de reprise en Chine. Et donc, selon moi, ça, tous ces ingrédients, vous voyez, mis bout à bout, on n'a pas encore le déclencheur, aussi bien sur l'inflation ou sur l'aspect banque centrale ou sur l'aspect macro également, on n'a pas encore le déclencheur pour nous dire, bon, bah, le 7004, c'est la zone d'appui, et puis on va filer un 7006 à 8000. Je suis pas inquiet que ça arrive dans quelques mois. Je suis pas du tout inquiet sur la tendance de fond, mais à très, très court terme, là, sur les horizons de quelques jours, pour moi, on a encore de quoi jouer avec les 7004, sans forcément s'en écarter trop. Et il y a même un risque un peu technique, hein, d'aller chercher quand vous reliez les creux de décembre et de mars. Hein, il y a deux creux sous le CAC 40. On a une oblique qui passe un peu en dessous des 7200 points. Et oui, il me semble que le contexte actuel pourrait nous ramener dans cette zone légèrement sous les 7200 points. Mais je continue de penser, et je m'arrête là-dessus, qu'on est plus dans une phase de consolidation. C'est le niveau qu'on défend, c'est la thèse qu'on défend depuis quelques semaines maintenant. C'est plutôt de la consolidation. On va faire quelques allers-retours comme ça avant de chasser les 8000 points dans quelques temps, plutôt que des sommets où il faut s'attendre à retomber à 6008, 6006 ou 6004. Vous voyez, donc peut-être un risque encore d'aller chercher un peu en dessous de 7002. Ça me semble une hypothèse possible dans les jours qui viennent.
Jean-Louis Cussac, comment percevez-vous ce marché ?
Très résilient, incroyablement résilient même. Et même si moi j'achète hein, tous les jours, jusqu'à 7270 futur mai, si on approche à nouveau ce prix, on a fait la fois précédente vers les 7288, je crois, un truc comme ça. Donc c'était proche du niveau, c'était ce qu'on avait prévu dans notre scénario principal. Là, on garde l'idée d'acheter encore. Donc, par exemple, là, on est parti à la hausse. Donc, ça serait plutôt un achat sur repli, par exemple, vers 7380 jusqu'à un signal technique. Mais il y a une hésitation qui est très forte, mais une hésitation qui est positive. La journée d'hier était calme. Hein, ce matin, ça l'est encore. On est à 350 millions d'échangés. Enfin, c'est quand même misérable. On est à 13 de vol implicite. Toujours un peu de méfiance. Des grosses valeurs qui cartonnent, LVMH, et vous voyez que toutes les belles valeurs sont vraiment bien ramassées, même depuis l'ouverture. Et puis Crédit Agricole qui a rassuré. Alors l'environnement, il est toujours aussi pourri entre guillemets, si je peux me permettre cette expression, mais c'est vrai qu'il y a des menaces de tous les côtés. Pause probable des taux directeurs de la Fed, mais enfin, on ne sait jamais. Récession, un jour on nous dit, oh là là, l'ampleur de la récession risque d'être importante. Le lendemain, on nous dit, oh non, pas de récession, on va aller vers un soft landing. Puis après, le plafond de la dette, enfin, il y a toujours quelque chose. Le CPI, bon, a éloigné, a renforcé l'hypothèse d'une pause des taux. Bon, ça va de ce côté-là, mais regardez comment ça s'est passé. Le marché a été très hésitant, il a monté un peu, il a plongé, il est remonté, hein, je parle de Wall Street, du SP500, il a fini plutôt bien, il reste encore plutôt pas mal ce matin. Voilà, hésitation positive. On essaye toujours d'acheter le mieux possible. Il n'y a pas de raison de remettre en cause l'idée long terme d'être acheteur, même si les acheteurs et les vendeurs ne se rencontrent pas, ce qui justifie ce peu de volume, parce que les acheteurs potentiels, eux, ils espèrent aller plus bas pour pouvoir entrer sur des, peut-être sur du LVMH, mais pas au plus haut. Et puis, les vendeurs, ils se disent, bon, après tout, j'ai le temps, le marché est résilient. Et puis, les vendeurs potentiels, en fait, ils sont pas si acheteurs que ça. Donc, ils sont prêts à vendre peut-être un petit peu, mais il faut pas qu'ils ratent la marche, parce que après, ils vont être sous-exposés, voyez-vous. Donc, la structure du marché reste hyper solide. Et l'histoire du trampoline continue. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on fait des trous d'air, on baisse, et puis hop, on rebondit. On baisse, on rebondit. Et ça fait un bout de temps maintenant que le marché a ce comportement de rebond permanent, mais d'alternance aussi, d'alternance forte des menaces. Alors un coup oui, un coup non. C'est assez étonnant.
Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Louis Cussac, donc Perceval Finance Conseil, Alexandre Baradez, IG. Jean-Louis, on vous retrouve tout à l'heure à 11h30, comme chaque jeudi, pour prendre le pouls de la séance en cours, notre CAC 40 qui progresse de 0,84% à 7423 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Nicolas Dose, bonjour.
Bonjour.
À quoi va ressembler le bonus écolo pour acheter une voiture électrique ? Plusieurs sources affirment que le gouvernement va modifier les règles d'attribution. Quel est l'objectif ?
Alors, ce ne sera pas politiquement assumé, mais l'objectif, c'est d'arrêter de distribuer de l'argent du contribuable sous forme de bonus écolo pour acheter une voiture électrique qui enrichit Tesla et les Chinois. Voilà. Et donc, on ne va pas le dire comme ça, mais l'idée, c'est que cette aide publique, elle bénéficie à des voitures produites en Europe, ou au mieux d'ailleurs en France. Aujourd'hui, si vous achetez une électrique de moins de 47 000 euros, c'est le seuil qui a été fixé en janvier, avant il était plus élevé, et de moins de 2 tonnes 4, vous avez une aide de l'État de 5 000 euros. C'est la raison pour laquelle Tesla a baissé le prix de ses modèles les plus vendus, les entrées de gamme, pour être sous les 47 000 euros et les rendre éligibles au bonus français, ce qui à peu près d'ailleurs assez cohérent. Mais la réalité, quand on regarde les ventes aujourd'hui de véhicules électriques, c'est que 40% des bonus qui ont été délivrés au premier trimestre ont été délivrés à des voitures fabriquées en Chine. Voilà l'histoire, c'est ça le sujet, même si politiquement ce ne sera pas présenté exactement comme ça.
Du coup, que va faire le gouvernement avec ce bonus vert?
Ma idée, c'est que voilà, le bonus, on va l'accorder en fonction de l'empreinte carbone du véhicule. Et évidemment, si on se tient compte de l'empreinte carbone de production d'un véhicule, l'empreinte carbone française, elle est juste imbattable. Avec un mix énergétique hydraulique, nucléaire et énergie renouvelable, normalement, tout ça semble très cohérent. Et objectivement, enrichir Tesla et les Chinois avec l'argent du contribuable, ça pose quand même un petit problème. Alors tout ça est très facile à dire, mais ça va être très compliqué à faire, parce que qu'est-ce que je vais dire on n'a pas envie de pénaliser les Allemands, ce sont nos amis. Qu'est-ce qu'on va dire aux Allemands qui produisent des voitures avec de l'énergie au charbon? Ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'on va dire aux Chinois qui est dans une province de Chine où tout est alimenté par de l'énergie nucléaire et qui va dire, mais attendez, moi ma production elle est propre, j'ai un EPR qui fonctionne, parce que ça fonctionne en Chine les EPR. Qu'est-ce qu'on va dire à tous les consommateurs français qui massivement ont acheté principalement l'an dernier une Dacia Spring, une bonne Renault, ouais, mais Made in China qui vient par bateau. Vous avez la Dacia Spring n'est plus éligible. Qu'est-ce qu'on va dire à tous les constructeurs pratiquement aujourd'hui qui équipent leurs véhicules électriques de batteries chinoises? Parce qu'on a des projets de méga factory de batteries en Europe. Mais en France, par exemple, le premier n'a pas encore vu le jour. Il va ouvrir d'ici quelques jours. Mais voilà, les projets, il faut quand même les
sortir de terre. Puissance, ouais.
Qu'est-ce qu'on va dire à l'OMC qui va nous dire, attendez, vous êtes gentils les Français, mais c'est du protectionnisme. Alors évidemment, les Américains font exactement la même chose. Il y a un moment, il est à peu près cohérent d'essayer de réagir. Qu'est-ce qu'on va dire d'ailleurs aux constructeurs concurrent des Français? Enfin, je sais pas, Tesla va pas réagir si tout d'un coup il y a un système qui est mis en place pour qu'il soit globalement exclu du bouclier, enfin du bonus. Donc, vous avez un peu l'alchimie du dispositif qu'il faut réussir à mettre en place pour vendre un bonus écolo au nom de la planète qui, en fait, est un bonus pro-Made in France, ouvertement protectionniste. Voilà. Alors, cette idée, elle est défendue par la plateforme de l'automobile. Vous savez, c'est la structure qui représente la filière et qui est pilotée par l'ancien ministre Luc Châtel. Après, imaginons qu'on trouve la bonne recette pour que les règles d'attribution de ce bonus fonctionnent. Ben, par exemple, Renault perdrait le bonus pour la Dacia Spring, mais il gagnerait pour la R5 qui va sortir des usines de Douai, et Stellantis a, d'ici à 2025, une bonne dizaine de modèles de voitures électriques qui vont être produits sur le sol français. Voilà.
Donc l'enjeu, c'est de changer les règles en essayant de se faire pincer par personne, quoi.
Ouais, c'est ça. Il faut pas tuer le consommateur, pas tuer les Européens, éviter quand même de se faire retoquer par l'Europe, éviter de se faire retoquer par l'OMC. Alors que les Américains, encore une fois, ne se gênent pas. Les impacts de l'IRA de Joe Biden, c'est juste incroyable. L'aspirateur à industrie verte, c'est extraordinaire. Alors ils mettent le paquet, ils savent faire. Donc il va falloir habiller dispositif Pro-Made in France en dispositif Avenir du Monde. Bon, mais il faut un truc que les gens comprennent.
Et oui, c'est ça.
Et qu'on puisse appliquer. Il va pas. Enfin, vous imaginez s'il faut des kilomètres de paperasse pour avoir le pédigré de la voiture qui est éligible ou pas éligible. Alors, on pourrait imaginer qu'effectivement, on va prendre l'empreinte carbone directe et indirecte d'un véhicule. Sauf qu'aujourd'hui, l'obligation de publier cette empreinte carbone n'existe pas. Elle sera obligatoire pour les constructeurs en 2025 sur les émissions de gaz à effet de serre de 2024. Je pense pas que le gouvernement ait encore envie pendant 2 ans d'enrichir les Chinois qui vont continuer, quoi qu'il arrive, à avoir une position tout à fait dominante sur les ventes de voitures électriques parce qu'elles sont tout simplement moins chères. Visiblement, ce bonus écolo et ces nouvelles règles seraient probablement parmi les éléments de langage d'Emmanuel Macron qui va dévoiler cet après-midi les contours de la loi industrie verte. On remarquerait que la séquence manque pas de piquant. On a un président qui probablement demain va chanter Cocorico en serrant la main d'un Taïwanais à Dunkerque dans les Hauts-de-France et qui probablement aujourd'hui va nous annoncer une mesure contre l'industrie asiatique.
Merci beaucoup Nicolas Dose et la polémique.
Mais il y a un sujet. Hein.
Oui, on s'en doute.
On va pas éternellement.
On pourrait remarquer photocopier l'IRA pour l'appliquer chez nous.
Ouais, on n'arrête pas de dire qu'on est les dindons de la farce de l'histoire et du village mondial. C'est pas complètement faux non plus.
Le CAC 40 progresse de 0,68%, 7411 points.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on accueille ce matin Olivier Rosenfeld. Bonjour Olivier.
Bonjour Cédric.
Conseiller du groupe Harvest. Les vacances approchent et certains parmi nos auditeurs, nos téléspectateurs envisagent peut-être de profiter de leur absence pour mettre en location leur résidence principale et on va essayer de les guider ce matin, de les conseiller pour être leur donner finalement toutes les règles à respecter. Elles sont nombreuses ces règles.
Exactement. C'est un régime qui est en fait assez fastidieux, pour ne pas dire complexe, qui est évolutif. Il y a une véritable frénésie législative autour de ces locations. Alors, on peut l'imaginer en réalité aussi bien lorsqu'on est locataire que propriétaire, puisqu'on peut imaginer une sous-location. Encore faut-il, dans cette hypothèse, que le locataire obtienne une autorisation écrit du propriétaire, alors de deux choses une. Soit c'était déjà mentionné dans le bail, cette faculté, sinon il faudra un document spécifique écrit de la part du propriétaire. Si maintenant on s'intéresse aux hypothèses les plus vraisemblables, celles d'un propriétaire. Si le bien devait relever d'une copropriété, il faudra vérifier en amont le règlement de copropriété, parce que ce dernier peut contenir ce qu'on appelle une clause bourgeoise, au sens où certains copropriétaires peuvent être hermétiques, pour ne pas dire hostile à la location saisonnière, parce que vous voyez sans cesse passer de nouvelles personnes avec des bagages, ça crée un inconfort pour les résidents habituels, suffisant pour que parfois cette clause bourgeoise interdite la location saisonnière. Donc c'est évidemment un point à vérifier.
Donc premier truc, son règlement de copro, si on est en copro.
Exactement. Si vous en avez la possibilité, il faut vérifier que l'assurance habitation que vous avez souscrite originellement couvre aussi cet environnement, de telle manière qu'en cas de dégâts, vous puissiez bénéficier d'une couverture suffisante. Si vous êtes effectivement ensuite dans ce dispositif, il faut savoir que vous ne pouvez pas louer plus de 120 jours par an votre résidence principale. Sinon, vous allez tomber dans un régime de meublé de tourisme qui supposerait des conditions dérogatoires encore particulières. Il n'en reste pas moins que déjà dans ce dispositif, vous aurez besoin de respecter un certain nombre de formalités et certaines communes, je peux penser à Paris, à Lyon, à Bordeaux, elles-mêmes mettent en œuvre des autorisations spécifiques qui rendent là encore les hypothèses...
120 nuits par an, c'est déjà pas mal.
Comment ?
120 nuits par an, c'est déjà pas mal.
Ah, exactement. Vous savez, on a 8 mois, 4 mois. En fait, le raisonnement par rapport à 360 jours, c'est il faut 8 mois pour la résidence principale, 4 mois de location au maximum, en sachant que vous avez après des règles spécifiques. Vous ne pouvez pas louer plus de 90 jours consécutifs au même locataire. On est vraiment sur des séjours courts de quelques jours, une semaine, pour peut-être par exemple, des étudiants qui vont venir faire un stage à Paris, par exemple.
Bon, donc ça, ce sont les règles de base. Donc, regardez son règlement de copro, regardez son assurance, voilà. Se mettre d'accord éventuellement avec son propriétaire. Pour la mise en relation, comment ça se passe concrètement? Parce que il y a certaines plateformes, mais c'est pas obligatoire. Enfin,
en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous soyez locataire ou propriétaire, en menant ce type d'opération, vous devenez un entrepreneur qui va relever, on verra peut-être, des bénéfices industriels et commerciaux. Et en toute hypothèse, il faut matérialiser l'existence de cette entreprise, de cette activité, par la voie de l'obtention d'un CIRET. Et donc, vous allez devoir, vraisemblablement en ligne, auprès du centre des formalités, obtenir ce numéro CIRET qui, une nouvelle fois, donne une consistance, un contour à votre...
Même si on veut louer son appartement 15 jours l'été,
la location saisonnière,
il faut avoir un CIRET.
Exactement. Et le fait est que, y compris pour votre remarque, le fait est que votre commune a pu, sous couvert d'une délibération municipale, vous obliger à être détenteur d'un numéro d'enregistrement qui, en réalité, va devoir accompagner toutes vos offres locatives. En réalité, la ficelle est un peu grosse. L'objectif de la commune, c'est de pouvoir contrôler si vous êtes en deçà ou au-delà du seuil de 120 jours. C'est tellement vrai que dans l'hypothèse où vous passeriez par l'entremise, par l'interface d'une plateforme, elle-même doit comptabiliser le nombre de jours attachés à ce même numéro et pourra supprimer votre annonce si d'aventure vous deviez dépasser 120 jours. Donc on voit qu'effectivement, les plateformes elles-mêmes sont responsabilisées aussi bien sur le plan fiscal que sur le plan administratif dans toutes les dispositions juridiques qui accompagne la location saisonnière.
Et vous m'avez tendu la perche, j'ai envie de dire. Il y a de la fiscalité, j'imagine, pour couronner le tout.
Alors, il y a de la fiscalité, mais avant la fiscalité, ce qui est sûr, c'est que vous devez prendre quelques précautions supplémentaires, un dépôt de garantie de l'ordre de 20%, c'est la pratique usuelle. Et puis, vous avez souvent intérêt, ce n'est pas une obligation, mais vous devez soit obtenir des arrhes, soit des acomptes. Ce sont deux systèmes juridiques différents. Les arrhes constituent un système, on va dire, indemnitaire, dans la mesure où, si le locataire potentiel devait renoncer, vous pourrez conserver ce qu'il vous a versé, mais vous ne pourrez pas obtenir le complément, alors même que les acomptes, à l'inverse, seront le moyen, quand bien même votre locataire potentiel a une faculté de repentir, de vous verser également le solde. Et pour revenir effectivement à votre question plus précisément sur la fiscalité, alors elle est de plusieurs natures, parce qu'on a la problématique de l'impôt sur le revenu, de l'IFI, des taxations sociales, mais en premier lieu de la taxe de séjour, puisque vous savez que certaines communes ont mis en place ce type de fiscalité, on va dire, indirecte, et vous êtes, vous, amené à devoir recouvrer ces sommes pour le compte de la commune et la lui reverser en fonction d'un dispositif qui est spécifique à chaque commune. Et donc, si on revient à la fiscalité en tant que telle, lorsque vous procédez à une location nue, c'est-à-dire un bien qui n'est pas muni du mobilier, vous relevez des revenus fonciers. Dans notre cas, nous relevons des bénéfices industriels et commerciaux qui traduisent bien l'idée que nous menons,
on a une activité,
d'un point de vue fiscal, une activité commerciale. Et là, vous avez deux types de fiscalité possible. Soit ce qu'on appelle le micro-BIC, c'est-à-dire si vous ne dépassez pas 77 700 euros de revenus, donc de loyer, vous pouvez déclarer uniquement les loyers perçus et l'administration va appliquer automatiquement une décote, une réfaction de 50% et vous n'êtes imposé que sur le solde. Donc vous avez un loyer.
Ça, c'est le système le plus simple.
Vous êtes imposé sur 400 euros. Maintenant, vous allez peut-être en d'autres circonstances, notamment parce que vos revenus vous y obligeraient, à passer en régime du réel. Alors là, ça veut dire que vous devez tenir une comptabilité commerciale qui intègre tous les éléments, aussi bien les entrées que les recettes, débit, crédit. Votre expert comptable va vous permettre de déterminer à partir de ce que sera le bénéfice qui constitue l'assiette sur laquelle vous serez imposé. Et si vous d'aventure vous aviez un choix à faire entre le micro et le réel, évidemment, vous devrez comparer ce que pourraient être vos charges si elles étaient déduites pour leur montant réel,
oui, c'est ça,
comparativement à la réfaction de 50%, mais en sachant qu'il y a une subtilité sur laquelle parfois certains surfent un peu vite et qui peut être une bombe à retardement. Le fait est que si vous êtes au réel et qu'ensuite vous occupez le bien, dont je rappelle qu'il y a votre résidence principale, vous devez déclarer la valeur locative qui va accroître la base imposable. C'est la raison pour laquelle, dans cette hypothèse, il faudrait impérativement opter pour le micro-BIC parce que c'est ce qui vous permet d'éviter que votre loyer soit majoré effectivement.
Vous voulez dire on doit se louer à soi-même, quoi.
Exactement. Oui. Et puis, dernier point, si vous dépassez 23 000 euros de recettes, vous paierez en plus des cotisations sociales. Vous voyez, donc, c'est un régime qui...
Donc, il faut louer pour moins de 23 000, quoi.
Si vous voulez éviter cotisations sociales, oui. En sachant qu'en plus, les cotisations sociales, vous savez, sont inversement proportionnelles à vos revenus. Quand vous payez vos impôts, plus vous avez de revenus, plus votre taux est élevé. Pour les cotisations sociales, c'est l'exact inverse. Vous commencez par un taux qui est à 40 ou 45% et qui va descendre jusqu'à 20%. Mais donc, si vous avez peu de recettes, imaginons légèrement plus que 23 000 euros, vous allez être sur des taux de taxation extrêmement élevés se rajouteront à votre imposition.
Eh bien, vous savez tout grâce à Olivier Rosenfeld. Merci, Olivier, d'être passé nous voir. Le CAC, plus 0,68%, 7411 points. On regarde rapidement ce que nous dit cette séance. Ça grimpe donc, la séance est dans le vert depuis l'ouverture et on se moque donc visiblement un peu de l'inflation américaine. L'Eurostock 50 est dans le même zoo, dans les mêmes eaux que Paris, plus 0,6%. Alstom, Renault et LVMH parmi les plus fortes hausses. Michelin, Eurofins et Unibail pour les plus fortes baisses. L'Eurodoll 1,0931.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Anne-Catherine Husson-Traoré est avec nous. Bonjour Anne-Catherine.
Bonjour Cédric.
Directrice générale de Novetic. Alors on est en pleine période des AG, on a eu aussi les publications de résultats, on a vu de bons chiffres. Mais ce matin, Anne-Catherine, vous vous interrogez. Et si ces grandes entreprises industrielles, notamment, payaient le capital naturel qu'elles utilisent à leur juste prix, est-ce que elles auraient les mêmes profits?
Eh ben, la réponse est non. Alors, sur quelle base on peut évaluer ça? Ben, en fait, il y a une étude qui a été ressortie par une des personnalités internationales de la finance durable qui s'appelle Sacha Beslick, qui date d'il y a une dizaine d'années à peu près, alors qui avait été faite par True Cost, qui était le spécialiste de la modélisation environnementale et pour qui a été racheté par Standard & Poor's. Donc, on peut voir l'intérêt accordé à ce genre de choses. Et en fait, il avait chiffré... Alors, c'est évidemment compliqué puisque pour l'instant, ce capital naturel de quoi on parle, de l'eau, du sol, de l'air, est absolument gratuit. Et donc, il faut arriver à trouver des modèles économiques à quantifier. Mais enfin, à l'époque, leur chiffrage, c'était 7 300 milliards de dollars par an.
Ah oui, c'est pas l'épaisseur du trait.
Voilà, donc vous mettez en regard, et on peut très clairement imaginer que leur modélisation, elle coûte de plus en plus cher. C'est-à-dire qu'on est parti de 7 300 milliards, mais on est vraisemblablement beaucoup plus haut aujourd'hui. Et surtout, bah, si vous ramenez tous les bénéfices annoncés à ce genre de mesures, on voit bien qu'il y a un sujet. Alors, ça se répartit comment? C'est d'abord 38% les émissions de CO2. Mais juste derrière, on a l'eau consommée, 25%. 24%, c'est l'usage des sols. 7%, c'est la pollution de l'air. 5%, c'est la pollution de l'eau et des sols. Et 1%, les déchets. Donc, on voit bien qu'il y a 10 ans, les pollutions étaient finalement moins importantes. Aujourd'hui, elles prennent une importance considérable, par exemple la pollution plastique ou autre. Donc, ce qui est intéressant dans ce calcul des impacts économiques, qui est en général évidemment discuté sur la méthodologie, le double comptage, mais ça donne un ordre d'idée. Et cet ordre d'idée, il est d'autant plus important à regarder qu'en fait, le capital naturel en question se dégrade, les entreprises ne le payent toujours pas. Par contre, elles vont devoir payer le fait de pouvoir continuer à l'utiliser. Et c'est ça qui a un changement de paradigme intéressant et qu'il faut que les investisseurs, parce qu'on est toujours dans BFM Patrimoine
bien sûr,
quand même.
Bien sûr, bien sûr.
Donc les investisseurs doivent vraiment regarder à quel point aujourd'hui les entreprises sont menacées, qui ont besoin de ce capital naturel. Alors l'un des plus emblématiques, c'est l'eau, puisqu'elle vient à manquer dans beaucoup de régions et en France aussi. Comment elles anticipent ça et comment elles le mettent finalement dans leur business plan. L'exemple le plus connu du moment, c'est Coca-Cola.
Oui, c'est ça, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines-là.
Alors, c'était, vous en avez parlé vous aussi, c'est en fait la ville de Grigny, le maire de Grigny, qui dit à l'usine d'embouteillage qui est sur la commune, qui jusque-là prélève...
On paye dans la nappe.
Paye dans la nappe qui est sous son usine en plus, hein, sur lequel elle a obtenu les droits il y a plus de 15 ans. Et donc là, il lui dit, non, en fait, il faut anticiper sur la raréfaction de l'eau. Donc il faut que vous reliez au réseau de la ville. Mais du coup, il faut savoir que pour un litre de coca, il faut 1,27 litre d'eau. Et donc, le réseau de la ville, ça permet de payer le juste prix. Mais du coup, l'addition, a priori, vu les volumes de...
Le prix du pompage n'est pas le même que celui du tuyau de la ville. Quoi.
On est sur plus de 2 millions par an. Plus de 2 millions par an, le coût de l'eau. Donc ça change le business model de cette usine.
Oui, c'est ça. Et donc c'est un point que les investisseurs, puisque vous nous rappeliez l'impérieuse nécessité qu'on a de toujours s'y référer, doivent avoir en tête pour pousser aussi à la stratégie qui permettrait limiter un peu tout ça. Enfin,
voilà, parce que là, on évoquait au début la question du prix du capital naturel. En fait, il va commencer à être payé de plus en plus par les entreprises pour continuer à l'utiliser. Quand on manque d'eau, l'arbitrage entre une usine d'embouteillage de Coca-Cola et les besoins en eau de la population, il est rapidement fait. Donc, dans un certain nombre de cas, en Inde, par exemple, il y a une dizaine d'années, Coca-Cola a dû fermer son usine. On voit bien monter ça aussi avec les questions de l'eau en bouteille. Puisque d'un côté, Danone et de l'autre, Nestlé ont annoncé chacune la fermeture pour des durées, des volumes indéterminés, le secret le plus complet règne, de leur mise en bouteille, donc de leur captage. Et donc là, on voit bien que dans des zones type Vichy, type dans toute cette zone de l'Est de la France où il y a des questions de sécheresse aussi très importantes, là, on a un vrai sujet. Or, le marché de l'eau en bouteille, il a déjà été mis en péril par le Covid, c'est vraiment un marché qui pose problème, et en plus, quand on sait à quel point, économiquement parlant, il faut les calculs disent que, compte tenu du coût de l'embouteillage, de la logistique, de l'approvisionnement, etc., si à moins de 100 millions de bouteilles par an produites, c'est pas très rentable.
C'est pas rentable.
Donc, on voit bien, là aussi, un business qui est en termes économiques de ce que ça rapporte et de ce que ça coûte, qui est déjà très très menacé. Et ça ne saurait... Alors, on pense évidemment à Danone, qui a une partie très importante d'eau en bouteille. Alors, le paradoxe du moment, c'est que, compte tenu de plein de paramètres court-termistes, à la fois des marques comme Unilever, Nestlé, ou enfin, surtout Unilever et Danone, qui ont été sanctionnés par leurs actionnaires activistes sur leur politique durable, considérant que ça coûte trop cher et que ça ne rapporte pas assez. C'est quand même un paradoxe, puisque si on continue à scier la branche sur laquelle on est assis, normalement, économiquement, ça ne va pas aller très bien. Donc on voit bien, et c'était sur ce sujet-là comme sur beaucoup d'autres, à quel point les intérêts des investisseurs de long terme et ceux de court terme ne sont pas les mêmes. Et pour un investisseur raisonnable, mieux vaut suivre l'approche de long terme.
Le prix du capital naturel, décortiqué ce matin par Anne-Catherine Husson-Traoré pour Novetic. Merci d'être passé ce matin sur BFM Business. Le CAC 40, 7406 points, il progresse de 0,6%. On file rejoindre dans un instant une salle de marché. Et puis, dans la prochaine demi-heure, on va s'intéresser à votre déclaration d'impôt cette saison. Et Jérôme Barré va tout nous dire.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.